France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Barthélémy Gaillard, Gwendoline Troyano, Joséphine Reinhardts et Antoinette Benoît, réalisé par Cassandre Puel et à la technique ce matin, c'est Olivier Arnay. C'est le dernier volet de notre série consacrée aux politiques de légalisation du cannabis. On a parlé lundi des États-Unis où le marché du cannabis tente de se structurer depuis 10 ans, mardi de l'Uruguay où l'État encadre la consommation, ou encore des politiques de dépénalisation en Europe, c'était hier. Aujourd'hui, au Maroc, la légalisation du kiff, c'est le sujet de Culture Monde ce matin.
Le projet de loi soumettra toutes les activités liées à la culture, l'exportation et l'importation de cannabis et de ses produits à un système de licence.
L'orientation de réglementer ce secteur ne peut qu'améliorer le niveau de vie de cette population, parce que c'est des agriculteurs. Toutes les orientations de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, c'est d'améliorer le niveau de vie des différentes populations.
Dieu merci, aujourd'hui la situation est bonne, ce qui profite aux agriculteurs et à l'économie du pays. Les agriculteurs peuvent désormais cultiver le cannabis en toute transparence avec l'appui des autorités. C'est fini le travail dans la clandestinité et la peur. La situation est bien meilleure qu'auparavant, où les cultivateurs étaient confrontés à l'incertitude et au risque, surtout lors de la vente et de la récolte.
Depuis le 15 juin 2021, les paysages du Rif ont commencé à changer. Des champs, autrefois cachés dans les montagnes, en ont comme dévalé les pentes. Ce n'est pas une vision psychédélique ou sous acide, mais le fruit de la loi de légalisation du cannabis qui permet à des cultivateurs de travailler sans avoir à s'en cacher et qui a fait apparaître des plants dentelés dans des espaces plus facilement visibles, au bord des routes, aux abords des villes, partout où ils étaient jusque-là proscrits. La culture du cannabis dans le Rif est une culture séculaire, longtemps interdite mais même si tolérée, mais qui peut désormais, depuis cette loi donc d'il y a 4 ans, faire l'objet d'une licence à condition qu'il soit destiné à un usage médical ou industriel. Pour le Maroc, premier producteur mondial de haschich selon l'ONU, cette loi est censée transformer une filière illégale en un marché prometteur, arracher les cultivateurs du Rif à l'emprise des réseaux criminels de trafiquants de drogue qui, encore en 2020, l'année d'avant la légalisation, ont encaissé 19 milliards d'euros de bénéfices dans la seule région du Rif, selon l'Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée. Comment et pourquoi l'État marocain a-t-il légalisé le cannabis, qu'on appelle donc le kiff au Maroc? Les cultivateurs du Rif sont-ils vraiment gagnants de cette nouvelle politique? Bonjour Kenza Afsaï.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maîtresse de conférence en sociologie, chercheur au centre Émile Durkheim. Vous êtes en duplex depuis ICI Gironde à Bordeaux. Bonjour Mohamed Tozzi.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Vous êtes professeur de sciences politiques, responsable de la recherche à l'IEP d'Aix-en-Provence. Vous avez coécrit avec Béatrice Hibou « Tisser le temps politique au Maroc, imaginaire de l'État à l'âge néolibéral » paru aux éditions Cartala. Et vous êtes pour votre part en duplex depuis ICI Provence à Aix-en-Provence. Alors d'abord Kenza Afsaï, puisque vous avez sillonné les champs de cannabis du Rif à la rencontre des agriculteurs qui le cultivent, que dit-on d'abord? Qu'est-ce que les légendes locales disent, tant sont rares les archives et les sources documentaires, des origines de la culture de la marijuana dans la région? Quelles sont les premières traces qu'on en ait?
Alors, on a des traces, hein, on a de la documentation, des archives, on a de la documentation qui nous date du protectorat français également. Il y a les deux travaux réalisés par Moulieras et son assistant au XIXe siècle qui démontrent que la culture de cannabis est séculaire au Maroc, mais pas seulement dans le Rif. Il y a eu d'autres endroits, en fait, mais toujours très très confinés pour les besoins de la consommation local.
Le RIF a été une possession espagnole quand le reste du Maroc était un protectorat français. Alors autant du côté français, l'administration coloniale avait créé la régie des tabacs et du kif qui avait un monopole sur les deux produits. Mohamed Tozzi, un peu comme en Indochine, sur le kif dans la région du RIF, on parle d'un pacte avec Franco. De quoi s'agit-il ?
En fait, il y a plusieurs récits. De toute façon, et ça relève un peu du mythe local pour justifier la primauté. Parce qu'il y a une compétition entre les communautés. La communauté qui revendique le RIF comme un droit, ce sont les communes de Ketama, Issegen et des environs Bninsar. Et les communes qui sont venues au cannabis dans les années 70, et puis celles qui sont venues au cannabis dans les années 80. Donc les récits sont multiples. Il y a d'abord un récit qui fait remonter l'arrivée du cannabis aux Saadiens, donc au XVIe siècle, à travers un roi qui Abdelmalek Saadi, qui avait séjourné longtemps dans la cour ottomane et qui était l'un des héros de la bataille des Trois Rois, et donc qui aurait ramené cette culture de l'Orient. Et il y a un deuxième récit qui est beaucoup plus récent, donc qui est lié à la visite du roi Mohamed V après l'indépendance. Ça ne veut pas dire que le kif était introduit, mais c'était reconnu par l'État. C'était au moment où il inaugurait cette route très symbolique au Maroc, qui s'appelle la route de l'unité, qui reliait la zone espagnole à la zone française, et qui a été un ouvrage coopératif, un peu socialiste dans les années 57-58. Et à l'inauguration, Mohamed V aurait reçu une délégation des gens de Ketama, qui lui ont ramené en cadeau un bouquet de kif, de cannabis, et à qui ils auraient dit « on ne sait faire ici que cela ». Et donc il aurait dit « faites-le ». Donc ça c'est les... Mais il y a un troisième récit aussi, donc c'est qu'un pacte avec Franco au moment où il recrutait des soldats pour son 39. Et donc pour recruter les jeunes, donc il aurait permis à ces populations de faire du cannabis. Mais tout ça, c'est uniquement des récits collectés entre mai-juin 2004, au moment où on avait fait une grosse enquête sur la région. Maintenant, il y a des arguments écologiques.
Oui, pardon,
qui sont présentés.
Mohamed Tozzi, pour vraiment dresser un tableau d'abord historique. En effet, sources parlent ou légendes parlent et d'un pacte avec Franco quand le RIF était encore une possession espagnole. Ou après l'indépendance du Maroc en 56, une sorte de d'onction informelle qu'aurait donné Mohamed V à l'époque le roi quand il s'est rendu dans le RIF et que les habitants seraient venus lui remettre un bouquet de cannabis en disant on ne peut vivre que de ça, comme vous le disiez. En tout cas, là, à cette époque-là, encore Kenzaf Saï, on était dans des pratiques ancestrales de culture du cannabis.
Effectivement, alors le cannabis a joué un rôle très important dans le mode de vie de la société et de l'économie marocaine. Il a été intégré et transformé à des fins alimentaires, sous forme de céréales. On le donnait aussi aux poules, les domaines techniques pour l'éclairage, les fabrications de textiles, de papier aussi. On a trouvé des traces d'usines de papier dans la ville de Fès, et aussi pour des raisons médicinales, bien que ça s'est estompé avec le temps. Il y a un travail assez colossal sur les archives qui a été réalisé par Jamal Bellardar, qui est ethnobotaniste et pharmacien marocain, franco-marocain. Et puis, ça a été utilisé aussi comme drogue magique et introduit dans des rituels et des cérémonies soufis en particulier. Et c'est un peu comme ça d'ailleurs que le kif de Ketama s'est fait connaître, parce qu'il était très apprécié par les Haddawa, les Issawa, etc. Ce sont des confréries soufis. Et donc, il a été utilisé aussi comme drogue magique pour ensuite être popularisé dans la population. Et là, on a des traces. Moi, j'ai réalisé énormément d'interviews avec des anciens, des jeunes qui allaient pour le compte de l'oncle, moyennant argent de poche, chercher le kif dans les médinas de Rabat à l'époque du protectorat. C'était un peu les premiers deals, mais tolérés. On allait chercher du cannabis séché, qu'on fumait sous forme de kif. Le kif, c'est à la fois la plante aujourd'hui, mais c'est aussi le mode de...
La façon de le fumer.
Oui, voilà la recette qui est un mélange de tabac et de kif séché, haché selon un rituel, selon et fumé dans une pipe.
un essepsis, une sorte de calumet, c'est ça. Oui. Et sur la pratique, la façon de le cultiver, on a encore des techniques de transformation aujourd'hui qui sont héritées de cette époque.
Vous entendez le tambour, là ? Il est en train de faire tomber le haschich. Personne ne vient jusqu'ici pour nous acheter de l'huile d'olive. Ce qu'on nous demande, c'est du kif. Depuis qu'on est né, on vient nous voir pour savoir si on a du kif. On nous dit « faites du kif, faites du kif ». Quand c'est mûr, ça donne des graines comme ça. C'est à ce moment-là qu'on la récolte. Puis on la fait sécher dans la maison. Après, on se sert dans le grand sac. Ensuite, on la met sur le tamis, là. On l'étale bien pour le recouvrir entièrement. Voilà. Après, on tape comme ça, toute la journée. Quand on l'ouvre, on récupère le haschich en poudre. La première extraction, c'est la meilleure, elle est excellente. Regarde celui-là, il est bien gras.
Extrait d'un documentaire pour Arte. Alors les pratiques ont évolué aussi et aujourd'hui on voit des techniques ultra perfectionnées, ultra modernes dans le Rif, de gros producteurs qui viennent pour beaucoup faire ombrage et concurrence aux plus petits cultivateurs. On aura l'occasion d'en parler. Quand est-ce qu'on a commencé à parler cette fois de shit au Maroc, Mohamed Tozzi? La résine, en fait, la transformation du haschich en résine.
Enfin, le mode de consommation, comme ça a été dit tout à l'heure, ça a été traditionnel et donc on le retrouve, est très lié aussi aux pratiques religieuses. L'un des saints patrons d'ailleurs du cannabis, c'est Sidi Haddi, qui est pas loin de la zone du cannabis, entre l'Arache et Ers El Kebir, donc qui est toujours fréquenté. Et la résine, là aussi, c'est de l'ordre du récit. Du récit qu'on n'a pas pu vérifier. Donc, des gens d'Issagen, donc une petite commune centrale qui était l'une des grosses communes à cannabis, et de Ketama, donc ils sont sur la même ligne, et ils racontaient que dans les années 70, donc 75, 76, un jeune Hollandais est arrivé, et donc
pour visiter la région. Comme beaucoup d'hippies à l'époque.
Et donc il les a initiés à transformer le bouquet en poudre. Et en résine, voilà un peu.
En disant que cette recette était, enfin, la résine
c'est
était déjà
plus facile
prisée
à transporter.
À ouais,
elle est. Et donc il y a un marché.
Et exporter donc en Europe parce que déjà les consommateurs européens prenaient du shit à ce moment-là de la résine. Kenza Afsaï, tous les cannabiculteurs du Rif s'y sont mis. Alors comment la production de cannabis a-t-elle pu augmenter à ce point pour en arriver dans les années 2000 à des quantités quasi industrielles destinées d'ailleurs à alimenter le trafic et notamment aux Pays-Bas puisque on l'a vu hier, les Pays-Bas ont dépénalisé la consommation de cannabis dans les coffee shops, mais pas la production ni la distribution, qui reste donc aux mains du trafic et du marché noir. Est-ce que les petites parcelles du Rif à l'époque étaient donc suffisantes pour déjà alimenter ce marché européen ?
Non. Donc, comme on le disait tout à l'heure, elle était confinée dans un espace restreint entre Ketama, Baberred, et puis ça s'est fait par étapes pour répondre à différents facteurs, non seulement l'augmentation de la demande européenne, pas la quasi-disparité, mais d'autres fournisseurs pendant les années 80 subissaient des conflits. On parle du Liban, du Népal, de l'Afghanistan, en fait, parce qu'en Europe, on trouvait différentes qualités de haschich qui avaient différentes provenances pendant les années 70. Il n'y avait pas que le haschich marocain. Et puis, après, il y a d'autres facteurs, hein, une proximité avec l'Europe qu'a le Maroc, plus en dehors, en plus de son climat, d'un savoir-faire qui était déjà là. Et donc ça s'est fait petit à petit. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'en plus de la consommation européenne, il y a aussi un marché national dont on parle presque pas, parce que il y a des dichotomies entre les nords et les suds. Les nords sont davantage mettent davantage l'accent sur les questions de santé publique, de consommation, etc. Et d'ailleurs, le Maroc a en partie été stigmatisé à cause de ça, parce qu'il a subi d'énormes pressions pour réduire ses surfaces cultivées. pendant les années 90 et début des années 2000, ce qui a donné d'ailleurs suite aux premières enquêtes officielles que le Maroc a menées conjointement avec l'ONUDC, l'Office des Nations Unies contre le crime et la drogue, en 2003, 2004, 2005. Et c'est là où, effectivement, il y avait une reconnaissance de l'ampleur de ces surfaces cultivées qui, au départ, étaient confinées et qui, à ce moment-là, on a vu que ça touchait différentes provinces, l'Oseima, Chefchaouen, Taounat, Tétouan, etc.
Mais comment se fait-il que ces exploitations aient pu s'agrandir, Mohamed Tozzi ? Il y a un statut foncier particulier dans le RIF ? Parce qu'il faut, pour cultiver le cannabis dans le RIF, il faut défricher, en fait, il faut déboiser, il faut défricher les forêts.
Ouais, le moment de bascule, c'est vraiment les années 2000. Donc le moment de bascule politique au Maroc d'abord, parce que l'État s'est réconcilié à travers le nouveau roi avec le RIF. Donc les premières visites du roi dans Al-Husseima pour sa villégiature et les premiers contacts. Mais et aussi la pression, comme ça a été dit, la pression des puissances et des Nations Unies. Et donc c'est 2002, 2003, 2004. Et pour le RIF, le statut foncier est très particulier. Le RIF est un protectorat espagnol. On appelle ça zone califale. Et le statut, et donc, il n'y a pas la loi forestière qui existe, dans la zone française, qui est beaucoup plus une loi qui donne à l'État l'appropriation des zones forestières ou des zones de présomption forestière. Alors que donc le statut était confus et, les eaux et forêts n'avaient pas la main de façon directe sur cette zone. Donc, le défrichement était très très courant et il y a une sorte d'enchevêtrement du melk, c'est-à-dire de la propriété privée et du domaine forestier. Mais maintenant, ce qui s'est passé à la fin des années 90, c'est que le cannabis est descendu très bas. C'est-à-dire 12% de la superficie, parce qu'on était à l'époque autour de 134 000 hectares, ce qui était énorme. Les enquêtes 2003-2004, 134 000, puis on est passé à 123 000.
Il y a des champs qui ont été détruits.
65 000. Mmh. Ouais. Et donc, c'est descendu. Donc, 12% de cette superficie était une superficie irriguée. Donc, c'est du cannabis irrigué, et notamment dans les zones, dans le bassin du Loukous, dans la zone de l'Arache, et puis vers le barrage Louahda, c'est-à-dire dans la province de Taounat. Donc, vraiment. Et donc, cette extension massive a dessiné, et c'est enquête 2004 qui a donné un peu cette typologie, trois grandes zones. Donc une zone, j'allais dire, où le cannabis se faisait historiquement, et donc c'est pratiquement considéré par la population comme un droit, un non négociable. Et une zone de tolérance qui posait beaucoup de problèmes à la fois politiques et sociologiques, et puis une zone clandestine, totalement clandestine. Et là aussi, ce qui a été choquant à un moment donné, c'est que même des terres habous, c'est-à-dire les terres de biens mortes, c'est-à-dire gérées par le ministère des Affaires islamiques, étaient louées à des cultivateurs de cannabis. Donc ça a été un peu choquant.
Et
donc
oui, alors qu'on rappelle que
ça posait des problèmes politiques.
Voilà, parce que c'était interdit à l'époque encore, la culture de cannabis, des méthodes de culture qui progressivement changent aussi, notamment pour exporter vers l'Europe, même si on a bien entendu Kenza Afsaï qui avait aussi une grande demande intérieure au Maroc, mais pour exporter vers l'Europe où les relais de la diaspora rifaine, par ailleurs, sont nombreux, on parle de 500 000 personnes originaires du Rif aux Pays-Bas, par exemple, eh bien il faut commencer à se convertir vers une cannabiculture plus énergivore et coûteuse en eau pour produire du cannabis plus chargé en THC. Et peut-être une précision aussi, Mohamed Tozzi, parce que vous avez parlé de l'État marocain qui voulait se réconcilier avec le RIF, en rappelant que cette région est associée à une image d'un territoire rebelle, voire révolutionnaire, comme il a pu l'être pendant la guerre du RIF ou après l'indépendance, la révolte du RIF en 58-59, quand l'armée marocaine est intervenue pour mater un soulèvement populaire. Donc, Kenza Afsaï, comment progressivement, l'État marocain va-t-il, à partir des années 2000, se saisir de ce problème-là, en comprenant bien qu'il y a des milliers de personnes qui vivent de la cannabiculture dans le RIF, il n'est pas encore du tout question de légaliser. Est-ce qu'on essaye de les conduire vers d'autres cultures, des programmes d'incitation à changer, à se convertir ?
Oui, il y en a eu plusieurs hein, au début des années 2000, mais même antérieurement. Hein, il y a eu un projet, le projet d'Héro pendant les années 60, où on a essayé de cultiver des pommiers. Enfin, il y en a eu plusieurs, hein, des tentatives de culture alternative ou de développement alternatif au cannabis. Alors, à partir du moment où il y a eu les enquêtes sur où on a révélé ces 134 000 hectares, on va dire en 2003, hein, ce qui était une grande ampleur, il va y avoir des tentatives d'éradication, hein, des plantations, mais qui vont pas avoir suffisamment de régularité. Et ensuite, selon les territoires, selon par exemple du côté de Wedlaw, où il y a des grandes vallées, en fait, il y a eu des grandes vallées de culture de cannabis, on va avoir des tolérances en fonction des années, etc. Il y a eu comme une volonté aussi que ça s'étend pas au-delà de ce que c'était déjà. Et d'ailleurs, les surfaces cultivées vont petit à petit baisser. Mais ce n'est pas la répression qui explique cela. Il y a eu d'autres facteurs. Il y a eu un tremblement de terre en 2004 à Al-Hoceima qui a fait que en fait, il y a eu un certain nombre de zones qui n'ont pas cultivé. Il y a eu et aussi, petit à petit, quelque chose qu'on a un peu ignoré à l'époque, c'est l'introduction des hybrides, des variétés hybrides, qui ont fait qu'on avait plus besoin d'autant de surface puisque les rendements étaient beaucoup plus élevés sur des plus petites espaces. Alors, plus petits espaces.
Alors, quand est-ce qu'on a commencé vraiment à parler de légalisation? Quand ce débat commence-t-il à émerger au Maroc et avec quels arguments? Kenzaf Saïd.
Alors, il a commencé, moi je dirais, au milieu des années 2000. En pleine, c'était un collectif, un acteur de la société civile qui en avait parlé au départ. Puis ça a été pris en main par des partis politiques. Voilà, c'est devenu un enjeu, en tout cas, de discussion sur la scène publique. Mais il y a deux partis politiques qui se sont un petit peu distingués parce qu'ils avaient une régularité dans ce débat. C'est le parti de l'Istiqlal et le PAM, qui est le parti Authenticité et Modernité.
Qui émerge en 2009 et qui se fait en quelque sorte le porte-parole du RIF.
Et donc, eux vont en parler avec davantage de régularité, avec des temps forts, hein, avec des débats au Parlement. Ils ont même déposé des projets par moment. Et c'est vrai que les cultivateurs, au départ, n'étaient pas associés à ce débat, jusqu'au moment où ces partis politiques ont commencé à produire du débat dans les zones de culture. Et donc là, voilà, ça a émergé, ont émergé également des tensions entre cultivateurs. Quand je dis tension, c'est vraiment la construction des argumentations entre nouvelles zones de culture, anciennes zones de culture, à qui on va permettre cela, des peurs aussi de la part des cultivateurs qui avaient peur qu'on légalise dans le sud du Maroc ou qui, selon eux, n'étaient pas légitimes et là où des terres ne seraient pas parcellisées, parce que dans le RIF, les paysans ont des terres extrêmement parcellisées et donc ce qui ne permet pas la mécanisation de la culture. Donc voilà, ont émergé des peurs et petit à petit des nouveaux acteurs aussi qui se sont dit beaucoup plus légitimes, des fils de cultivateurs, des neveux, des petits-fils qui ont fait des études, qui ont quitté la région de production, qui sont ingénieurs, cadres, etc. et qui ont commencé à créer leur propre collectif, leurs propres associations, des petits médias et à organiser des conférences, à faire appel aux chercheurs pour qu'ils parlent avec eux du cannabis, jusqu'à créer aussi un festival qui s'appelle Bachir, qui en est à sa 11e édition cette année. Et dans le cadre de ce festival, qui n'est pas un festival dédié à la seule culture de cannabis, hein, c'est un festival qui est pour la promotion de la culture amazighe, et dans ce cadre-là, ils font aussi des conférences sur le cannabis, ils réalisent des stands sur les productions locales, sur la question des femmes dans le RIF, voilà, etc.
Parce qu'on est aussi donc, Mohamed Tozzi, quand on parle de légalisation du cannabis dans le RIF, qu'on n'a pas situé d'ailleurs géographiquement, c'est vraiment le nord du Maroc, un large territoire, une large bande bande de territoire en, on va dire en bord de mer pour le dire vite, même s'il y a évidemment un arrière-pays, puisque cette bande est assez large. Il est aussi question en fait de désenclaver le Rif d'une certaine façon, ou de ou un État central qui voudrait un petit peu reprendre la main peut-être sur cette région.
Oui, de toute façon ça, la sonnette d'alarme a été. On a commencé par le déni de tout cela, et à partir des milieux des années 2000. Notamment parce qu'il y a eu beaucoup d'autres actions au niveau du Maroc qui ont mis en avant le RIF et sont passées. Il y a eu le processus de justice transitionnelle qui a été engagé au Maroc en 2005, et donc où le RIF était un des acteurs reconnus comme victime de la répression des années de plomb. Et donc il y a plein d'activités qui sont nouées autour. Et puis il y a eu surtout un constat d'un danger imminent pour tout le système politique en général. Parce que les trafiquants du cannabis qui investissaient beaucoup dans les grandes villes, dans Tanger, à Fès, à Tétouan, au moment des élections municipales, on a constaté de façon assez flagrante qu'il y a une sorte d'émiction des grands notables du cannabis dans les élections municipales des grandes métropoles. Donc ça, c'était un premier élément. Un autre élément qui est important, c'est que sur les 800 000 familles un peu qui sont concernées par le cannabis, il y a à peu près 90% qui étaient poursuivis par la justice, soit par la gendarmerie royale pour trafic de cannabis, soit par les eaux et forêts pour défrichement illégal. Et donc, y compris des agents de l'État, c'est-à-dire les auxiliaires d'autorité, les moqaddem, les chers des différents douars, étaient un peu proscrits. Et même, il y a une sorte de suspicion générale qui pesait sur le RIF. Une fois qu'il a une carte nationale immatriculée sur une des communes du RIF, ou même une voiture qui a une plaque. Donc tout ça a créé un climat d'insécurité, d'instabilité très très fort, qui a permis de commencer à négocier de façon très informelle sur les trois zones. D'abord, il y a eu un gros programme sur la province de Larache et un peu sur la province de Ouezzane et de Taounet, qui s'appelle « Province sans cannabis ». Avec une accélération un peu du processus de substitution, mais ça n'a pas marché, ça n'a pas trop marché. Des processus d'éradication, mais brutaux, mais sans indifférenciés, irréguliers, comme ça a été dit. Et ce qui rendait l'intervention de l'État illégitime et négocié avec les uns et les autres, etc. Et donc, tout ça va faire que il a pris une prise en charge de la question par les partis politiques, l'Istiqlal et le PAM, sachant que le PAM, son élite, ses dirigeants, une bonne partie de ses dirigeants, c'est une conjugaison d'une gauche repentie et des gens proches du palais, une partie de ses dirigeants étaient originaires du RIF.
Le PAM, donc, le parti Authenticité et Modernité, Mohamed Tosi, donc ces arguments aussi, entre guillemets, sécuritaires, pèsent auprès de ce parti-là, des habitants du RIF qui disent que d'un côté, il y a l'argent de ces cultures dans le RIF blanchies par leurs propriétaires dans des complexes immobiliers à Tanger ou sur la côte atlantique, alors que plein d'habitants du RIF, qui pour certains disent n'avoir aucun lien avec la canabiculture, se font régulièrement inquiéter par les forces de l'ordre.
Quand ils m'ont arrêté, ils n'ont pas trouvé de kiff chez moi. Et pourtant, ils m'ont accusé. J'ai été piégé. Quand je suis arrivé au commissariat, ils m'ont demandé si j'avais du kiff. J'ai répondu que non. Et là, ils ont sorti du tiroir 1 kilo de hashish en me disant que ça, c'était réservé à ceux qui ne veulent pas avouer. Le problème ici, c'est que le jour où ils décident de t'embarquer, c'est fini. Ils utilisent ça comme une arme contre nous dans toute la région du Nord.
Nouvel extrait d'un documentaire pour Arte. La légalisation devait permettre notamment de cultiver sans crainte d'être inquiété Kenza Afsaï, même si on entend bien que certains qui disent ne pas du tout cultiver de cannabis l'étaient aussi, c'est encore une autre question. On l'évoquera rapidement, mais ceux qui, parmi les cannabiculteurs que vous avez beaucoup rencontrés pour vos travaux, ceux qui demandent à avoir une licence et qui s'inscrivent dans cette démarche de légalisation, est-ce qu'ils le font pour ne plus avoir peur d'être poursuivis ou parce qu'il y a un réel intérêt économique à entrer dans le marché du cannabis légal?
Moi, je pense qu'il y a des motivations diversifiées. Il y en a certains qui le font pour des questions, justement, ce que vous venez de dire, hein, c'est-à-dire arrêter à la fois avec la stigmatisation, arrêter avec les mandats d'arrêt, enfin ne plus être... Il faut savoir que ceux qui sont touchés par la culture de cannabis, souvent on trouve au moins un membre de la famille qui est en, qui est en prison et qui va une fois tous les 3 ans, une fois tous les 4 ans, vous demander d'après la personne, on vous dit d'ailleurs qu'elle est en pèlerinage à la Mecque. Elle est, voilà, donc il y a cette pression, je pense que les motivations sont diversifiées, mais qu'il est trop tôt pour savoir un peu comment va se construire il est en pleine construction en fait le marché. Donc pour le moment, je pense que les motivations sont diversifiées.
Parce que la légalisation de la production est réservée, on le rappelle, à un usage médical ou industriel et notamment textile, puisque le chanvre permet aussi de confectionner ses vêtements. Mais beaucoup disent au Maroc que ce marché médical et industriel, c'est pas suffisant pour absorber la production du RIF. On verra, en tout cas le gouvernement marocain dit à l'époque, vous cannabiculteurs, vous ne touchiez que 4% du chiffre d'affaires final du cannabis dans le circuit illégal parce que le reste bénéficiait aux trafiquants, la plupart à l'étranger. Là, vous allez toucher au moins 12% du chiffre d'affaires, à voir à moyen terme et à plus long terme si c'est le cas. En tout cas, vous parlez, en attendant Kenza Afsaï, d'un coût d'entrée, un coût d'entrée administratif pour ces cannabiculteurs qui intègrent le circuit légal. Pourquoi ?
Alors, un coût administratif, parce qu'ils doivent déjà se constituer en coopérative et donc trouver les membres de cette coopérative. Alors pourquoi une coopérative ? Alors pour différentes raisons, parce que c'est un système en fait dans l'agriculture marocaine. En fait, on crée des coopératives. C'est pas propre au cannabis. C'est ça. Voilà, il y a une argumentation qui va en faveur des retombées économiques, d'économie solidaire, etc. Là, on n'est pas dans une économie solidaire. On est vraiment dans une économie de marché. Mais il y a la volonté de l'État qu'il y ait ces coopératives là. Ensuite, les rapports avec la nouvelle agence de réglementation de cannabis, qui est une agence étatique institutionnelle qui comporte des cadres, qui a des normes et des savoirs qui sont propres à elle, qui sont très formelles. Et à côté de ça, des cultivateurs qui, depuis des décennies, ont construit leurs propres normes, qu'on dit informelles, mais ce sont des normes et ça commence à l'échelle de la famille. Des normes liées à la division du travail au sein de l'exploitation où les femmes ont un rôle, les enfants ont un rôle, les hommes ont un rôle, etc. Enfin, les techniques et les savoirs sont
partagés, très différenciés.
Différenciés. Et les femmes, d'ailleurs, je tiens à le souligner, jouent un rôle très très important dans cette culture de cannabis, puisqu'elles permettent de limiter les coûts de production. Généralement, c'est une extension du travail domestique pour elle, comme elle travaille aussi pour l'élevage, d'autres travaux agricoles au sein de l'exploitation. Et là, dans la culture de cannabis, ça leur permet pas toujours et la plupart du temps d'avoir des salaires. Donc il y a déjà des normes qui sont des normes sociales, des normes économiques qui sont liées à tout ça. Et puis là, ils sont confrontés à un nouveau système. Avec des nouvelles normes, des nouveaux savoirs, parce que là ils sont, par exemple, ils doivent cultiver selon un cahier des charges qui lui-même doit répondre à des obligations internationales en termes de médicaments, etc. Enfin, on fabrique pas des médicaments, comme on fabrique le cannabis pour le haschich, et donc tout ça c'est très contraignant pour eux, ça va prendre du temps, en tout cas pour ceux qui vont s'y intégrer, s'y insérer. Voilà.
10 000 licences, c'est ça à peu près, ont été délivrées depuis la légalisation ? 10 000 ?
Moi, je pense que c'est plutôt dans les 4 000.
D'accord.
D'après les derniers...
Il y a plusieurs chiffres qui circulent.
Oui, voilà.
Mais sur combien d'exploitations ?
Il y a différents chiffres qui circulent, effectivement.
Ça représente quoi, 4 000 licences par rapport au nombre de cultivateurs de cannabis dans le RIF ?
Alors, d'après les derniers chiffres, effectivement, il y a différents chiffres qui circulent. D'après les derniers chiffres, ça représente à peu près 2 à 3 000 hectares en termes de superficie.
Non, c'était pour savoir si c'était beaucoup, si ça veut dire que beaucoup de cannabiculteurs ont rejoint le circuit légal ou si beaucoup, au contraire, s'en sont tenus éloignés.
Alors, vu quand on compare avec les superficies de cannabis destinées à l'usage social, enfin dit récréatif, bah en fait c'est encore un pourcentage assez assez minime. Je pourrais pas vous donner le chiffre exact.
On dit que de toute façon le cannabis médical c'est à peu près 10% de la demande mondiale de cannabis. Mohamed Tozzi, est-ce que cette légalisation a par ailleurs provoqué une présence accrue de l'État marocain dans le RIF, ou est-ce qu'il laisse les agriculteurs faire comme ils ont toujours fait, même si les normes restent contraignantes, ce coût d'entrée administratif élevé, cette rotation par exemple des terres, la mise en jachère qui est exigée de cannabiculteurs qui jusqu'à présent fonctionnaient autrement. Est-ce que l'État est très présent sur place pour vérifier que tout ça se passe dans les règles ou pas ?
C'est un peu tôt pour le dire. On a deux campagnes maintenant. La deuxième a démarré tardivement. Maintenant, l'État a un savoir-faire, parce qu'il faut pas oublier que jusqu'aux années 2000, l'État a publié chaque année un arrêté d'assolement pour l'ensemble de l'agriculture marocaine qui définissait les superficies pour l'irriguer, les superficies, les types de cultures, etc. Donc, elle sait faire. Maintenant, la part du cannabis encadré reste très très limité. Mais je pense qu'il est très important maintenant que il y a encore un champ de connaissances ouvert sur cette question. Et je pense que l'hypothèse qu'on peut faire, c'est que il y a un premier moment où le cannabis est passé de ce qu'on peut appeler une culture traditionnelle à une culture plutôt de commerciale et d'exportation. Il y a eu l'éviction des vieux. Et c'était les jeunes, à partir des années 2000, qui ont pris en main les exploitations, alors que leur père était encore vivant. Là, on est dans cette troisième phase où la demande d'expertise est différente. Et effectivement, il y a un coût d'entrée qui est important. Et je pense, et c'est là, on voit un peu le retour de ces animateurs du champ de la discussion autour du cannabis, qui sont les riffins, et qui sont expatriés soit à l'étranger, soit expatriés qui sont à l'intérieur du pays, à Rabat, à Casablanca, parce qu'il y a beaucoup de cadres riffins qui sont soit dans les appareils d'État, soit dans le privé. Et là, ils sont en train de reprendre la main. Et on n'a pas assez de données pour voir, sur les sociétés d'ailleurs, les entreprises qui vont recevoir cette production encadrée, quelle est la part des originaires du RIF dans ce nouveau tissu industriel qui est en train de se placer.
Il est également trop tôt pour savoir si l'image du RIF au Maroc a vraiment évolué. Le roi du Maroc, et c'est vous qui nous l'avez raconté, Mohamed Tozzi, Mohamed VI, se rend régulièrement au camping du RIF, camping royal, attention. Il dit que c'est l'un de ses lieux de villégiature préférés. Je ne sais pas si ça dit vraiment quelque chose des relations entre l'État marocain et le RIF, mais en tout cas, la légalisation du cannabis permet aussi des allers-retours, comme ça, des discussions qui s'établissent entre les RIFains, les plusieurs générations. Certains sont installés, comme vous le disiez, dans les grandes villes marocaines. Quand l'été dernier, Mohamed VI a gracié 4800 cannabiculteurs jadis condamnés ou poursuivis pour leurs activités agricoles, Kenza Afsahi. Cette grâce a été saluée, y compris par le parti islamiste du PJD, qui fut pourtant un opposant féroce à cette mesure. Est-ce qu'on sait si ces cannabiculteurs graciés ont pu s'intégrer dans la nouvelle politique de légalisation depuis, s'ils sont revenus sur leurs terres, et comment se fait ce retour ?
Alors, moi, j'ai pas ce type, ces données-là. En tout cas,
plutôt dans les discussions que vous avez avec eux, c'est pas tant des chiffres que la façon dont c'est reçu.
Oui, la façon dont c'est reçu, c'est très très bien reçu, parce que c'est une amnistie où c'est une demande qui a été faite de nombreuses fois et qui n'a pas, la légalisation n'a pas donné lieu à justement cette libération, et donc 3 ans plus tard, quand ça a été fait, ça a été une très très belle nouvelle. Pour toute la, je pense pour tout le Maroc, hein, c'est pas juste pour les, parce qu'il y a une empathie en fait pour les riffins, pour les cultivateurs. Il y a un sondage qui a été réalisé par le Conseil économique et social et environnemental au Maroc auprès de 1054 personnes âgées de 18 à 69 ans, et dont les résultats montrent que les effets du débat sur la population générale, avec notamment une sensibilisation des citoyens marocains à la cause de la population du riff, en tout cas des cultivateurs, puisque 59% ont lu, vu ou entendu parler du cannabis. 94% des personnes sondées s'accordent sur le caractère historique de la culture de cannabis. 91% veulent que ça aille vers ces populations-là. Il y a une empathie, en fait. Voilà. Donc ça a été très bien reçu.
Ça a été très bien reçu par les Marocains dans leur ensemble, même si on entend bien qu'ils restent, ils persistent parfois des tensions entre eux, on va dire communautés pour le dire vite, mais même dans le Rif, au sein du territoire Rif, plusieurs communautés qui se disputent un peu la paternité du cannabis avec des enjeux importants en termes de légalisation. On en parle juste après cet artiste. Alors il est né en Kabylie en Algérie, mais il est activiste amazigh et lui il appelle à une unité de la culture amazigh, il s'appelle Majid Soula. L'artiste, chanteur et activiste amazigh, autre nom pour dire berbère, Majid Soula, né en Kabylie, en Algérie, mais qui avec ce titre Algérie-Maroc appelle à une unité de la culture amazigh par-delà les frontières. Sur la question du cannabis dont nous parlons cette semaine, les amazigh en revendiquent l'héritage dans le Rif, mais certaines communautés arabophones ne sont pas d'accord.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Depuis 7 générations, chaque roi donnait son accord verbal pour la culture du kif. Il y a eu Sa Majesté Moulay Abdelhafid, Moulay Abdelaziz, Moulay Hassan, Moulay Youssef, Mohamed V, l'autre Hassan, Hassan II. Ce sont tous des rois de la dynastie alaouite. Ils ont tous autorisé cette culture, mais uniquement dans la province de Ketama. Ketama, c'est le vrai berceau du kif.
Archive de 1993, un documentaire sur le Rif et ce cannabiculteur qui défend sa province comme étant le vrai berceau du kif, car le combat est rude dans la région pour s'arroger la paternité de la culture. Un combat dont l'enjeu est fort puisqu'il s'agit de défendre une légitimité et donc peut-être des licences d'exploitation. Bonjour Ali Dmouna.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes anthropologue, professeur à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Moulay Ismail à Meknès, auteur du Bled du Kif, Économie et Pouvoir chez les Ketama du Rif, paru aux éditions Ibis. Alors d'abord, pour bien comprendre Ali Dmouna, tous les habitants du Rif sont des Rifins, mais il y a plusieurs groupes et communautés.
Exactement. Bon, par le Rif, en fait, on parle essentiellement de la zone géographique, en fait, qui va des montagnes de l'Ara jusqu'au Mador, mais bon, ça c'est une appellation géographique en fait très récente. Par contre, on va trouver plusieurs groupes linguistiques qui vont changer d'une région à l'autre. Certains se comprennent, d'autres ils ne se comprennent pas. Et le Rif a toujours fait un peu une forme d'étymologie qui pousse certains à appartenir en fait à ça. Mais bon, maintenant, il faut dire qu'en fait, ces groupes, ils sont tous en fait d'origine berbère, amazigh plutôt, parce qu'on va trouver tous les noms des villages en fait dans la région, ils sont à 90% d'appellation amazigh en fait.
Vous dites amazighophone, d'ailleurs je précise pour éviter le mot berbère qui vient de barbare, il est bon de le rappeler. Et historiquement, alors est-ce qu'on sait qui a vraiment commencé la culture du cannabis dans le Rif? Il y a vraiment un débat, il existe.
C'est extrêmement, parce que j'ai écouté attentivement ce que les collègues disaient tout à l'heure, il y a énormément de narratifs en fait autour de l'histoire du kif en fait dans la région, mais qui est essentiellement oral, sans bien évidemment mettre une hiérarchie entre l'oralité et l'écrit, une supériorité de l'écrit sur l'oral, parce que ça se passe pas comme ça forcément, mais nous avons des traces. On a des traces en fait écrites, cette fois-ci, en fait, ce qu'on appelle les nawazis. Les nawazis, c'est les cas d'espèce des oulimas, en fait, du Maroc, qui vont démarrer à partir du XVIe siècle autour des questions, c'est des écrits autour des questions, est-ce que le cannabis, le kif est légal ou illégal? Il y en a certains, des oulimas, ils vont partir encore plus loin en disant, en fait, les fumeurs du cannabis, ou plutôt le kif efféminise les hommes qui le fument. D'autres, ils vont interdire carrément la prière avec, etc. Ce qui fait qu'on a des traces sur la consommation, mais on n'a pas du tout, en fait, les traces écrites, hein, je parle toujours d'écrites, autour de la zone de production. On sait, par contre, que certains confréries religieuses qui se sont installés dans plein de régions et tout, qui cultivent le cannabis. Et le kif est quitté un peu présent partout dans le territoire marocain. D'ailleurs, les Français, quand ils arrivent au Maroc, les plaines de Marrakech et tout, déjà, il y avait du kif, ou même la région de Bnimilef. Mais on est toujours, en fait, dans des zones un peu pour une consommation locale qui est avec une dimension mystique, etc. Mais réellement, sur un territoire, en fait, précis,
ouais, on sait pas.
Nous avons... Non, c'est pas.
Mais même si les deux groupes, les deux groupes, pour le dire vite, les amazirophones et les arabophones ont des arguments à faire valoir, parce que ces revendications datent de la légalisation sous condition du cannabis marocain, donc en 2021. Pourquoi c'est si important? Pourquoi de la paternité de la culture du kif dépendrait la délivrance de licences pour cultiver du cannabis légalement?
Il faut inscrire en fait ce type de récit ou de narratif autour de l'histoire en fait de la région complète. Le Rif, c'est une région qui a vécu une forme de séparation et une blessure en fait narcissique dans son histoire, notamment pendant la période coloniale, avec cette séparation de la zone française, la zone espagnole, etc. Avec la guerre du Rif, à la suite de la répression de 58, ce qui fait que, et après 84, ce qui fait que le Rif est partagé sur plein de zones. En fait, chaque zone va développer une forme de narratif, soit politique. C'est le cas, par exemple, de la région de Hessima, avec leur histoire, la guerre du Rif, Abdelkrim Khattabi, etc. Et nous avons, en fait, le centre du Rif, qui est une zone qui est extrêmement pauvre au niveau géographique, etc., qui va développer plus, en fait, une narrative d'auxiliaire, en fait, de la guerre du Rif et de la révolution, en fait, rifaine contre le colonisateur. Mais tout de suite, il va trouver, en fait, son âge d'or, donc le récit qu'il va produire autour du cannabis. Et à ce moment-là, en fait, le cannabis devient, en fait, on va dire, le capital social et culturel autour de lui, en fait, une identité en fait vient se griffer et qui construit en fait tout un discours autour d'elle. C'est pour ça en fait, tout le discours en fait de revendication d'identité de Bled du Kif. Ils vont en fait l'attribuer à eux-mêmes pour essayer de mettre un peu à la fois une légitimité historique, une distinction par rapport à d'autres territoires qui sont considérés non historiques. Et du coup, nous sommes devant deux espaces, en fait, un espace historique et un espace non historique. Deux espaces, ils vont se fonder sur un discours comme le reportage que vous venez de présenter. En fait, les sept sultans alaouites nous ont accordé ça. Mmh. Les jeunes, ils vont raconter, nos grands-parents nous disent que depuis telle période, on cultive le cannabis, etc.
Donc, ces communautés vont, on peut presque parler de lobbying, qui vont communiquer leur savoir-faire sur les réseaux sociaux, alors que la transmission s'est très longtemps faite exclusivement de façon orale, faire une activité de plaidoyer quasiment auprès des partis politiques. Vous expliquez dans vos travaux, Mohamed Tosi, comme le temps file, je résume très rapidement, mais Istiklal, le parti historique de l'indépendance, par exemple, très implanté localement dans le Rif, mais dont la légitimité auprès des jeunes est en déclin, est un des partis qui est courtisés par ces groupes, comme le parti Authenticité et Modernité, le plus en point sur la légalisation du cannabis. Est-ce que ces partis sont sensibles aux arguments d'un groupe contre un autre? Istiklal, le parti de l'indépendance, a souvent eu un discours d'unité du Maroc.
Alors, il y a juste en fait un truc. Le parti Istiklal, c'est un parti qui s'implante à partir de 58 dans la région, au gré en fait de la population, suite au massacre qui s'est passé d'ailleurs, mais qui n'a jamais eu de l'aura auprès des jeunes. C'est-à-dire, c'était plutôt un parti qui est très attaché à une élite en fait locale. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y avait un renversement. Ça, c'est d'une part. C'est-à-dire, c'est très contradictoire ce que je vais dire. Je peux même dire, en fait, c'est un des partis les plus détestés par une bonne partie de la population, mais qui quand même, en fait, pendant très longtemps, c'est lui qui siégeait au sein du Parlement et qui représentait, en fait, la région. Le parti PAM vient par la suite, en fait, concurrencier, en fait, le parti Istiklal, qui considérait, en fait, là-bas comme étant, en fait, le maître de lieu. Et un des dossiers sur lequel on va aller chercher un peu cette concurrence, c'est le dossier du cannabis et du kiff. Et à partir des années 2000, en fait 2007 essentiellement, on commence à lancer quelques débats pour essayer de tester un peu la réaction de la population. Il y avait deux types de réactions. Il y avait en fait une réaction qui est complètement identitaire. C'est-à-dire, en fait, par exemple, si vous prenez le groupe qui s'appelle par les enfants du pays du kiff, de Sanhaja, c'est un groupe qui a d'abord une revendication linguistique, en fait, dans un premier temps, parce que la langue, le parler de Sanhaja, c'est un parler qui est en voie de disparition. Et du coup, en fait, pour mettre en place un peu à la fois ce parler qui est en voie de disparition, c'est le kiff ou le débat autour du kiff ou l'appellation des enfants du kiff qui va devenir un moyen pour mettre en place, en fait, un groupe, une identité, un groupe qui veut se séparer des rifins en disant on n'est pas des rifins, on est des sanhajas. Et du coup, le rif a son histoire et nous avons notre histoire qui est liée aussi à l'histoire du kiff. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Ce qui fait que le rif prend ici une dimension politique, en fait, dans la narrative. Il n'est plus, en fait, un vecteur économique d'une population qui veut juste cultiver pour s'en sortir et tout. Non, il devient carrément, en fait, le fer de lance d'une revendication politique en s'appelant, en fait, les enfants du bled du kiff. En étant, en fait, revendiqué, en créant, en fait, une narrative d'autochtone à travers la culture du cannabis et récupérer, en fait, l'histoire de la plante.
Mais alors, est-ce que l'État marocain, est-ce que ces guerres patrimoniales l'intéressent ou est-ce qu'il distribue des licences sans calculer à quel groupe elles vont profiter ?
L'État marocain, en fait, c'est beaucoup. En fait, il faut savoir que l'État marocain, c'est un des experts, en fait, dans la gestion des territoires illicites, en fait. Tout à l'heure, je vous ai entendu poser la question, est-ce que l'État marocain a récupéré, en fait, cette zone? L'État a toujours été dans cette zone, au sens, en fait, où, quand le système de distribution, d'économie de rente, de corruption fonctionne, des agents de l'État, ils sont dedans. Quand ça roule bien, on a plus de transparence, ils sont là. Le système a changé, du coup, en fait, l'État reconfigure, en fait, rentre dans un nouveau enjeu à travers cette loi-là. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, l'État a laissé, en fait, ces deux groupes se confronter, en fait, les gens du pays du kiff et celles des régions d'origine du kiff, qui se sont confrontés, en fait, qui ont déplacé leur lutte de la zone locale vers Rabat, en ayant rencontré, en fait, les différentes représentations parlementaires et tout. Sauf que l'État, en fait, en réalité, n'a pas légalisé, en fait, les 75%, 70% des licences, en fait, données pour la culture du cannabis légal, qui d'ailleurs, qui n'est pas représentatif du tout de l'économie du cannabis au Maroc, se fait tout d'abord dans la région de Taounat, qui est une région extrêmement récente, ça date des années 2000. Et du coup, en fait, on a laissé les tensions politiques dans cette région. Pour cette région, on est allé, en fait, donner les licences dans une autre région. Il n'y a pas des enjeux, en fait, où la population...
Il n'y a pas de revendication identitaire.
Il n'y a pas de revendication, mais il y a aussi des raisons économiques pour ça. C'est qu'en fait, les zones où ils sont partis, c'est des plaines.
Merci.
Il y a de l'eau. Il n'y a pas des problèmes, en fait, liés ni à l'écologie, ni à l'environnement.
Donc, c'est moins montagneux et mieux irrigué. Je vous remercie beaucoup. Donc, les communautés qui n'ont pas obtenu des licences quand elles en voulaient, parce que tout le monde n'en veut pas, sont restées cantonnées au marché noir. Mais il y a encore de nombreuses années devant nous pour voir comment se développe progressivement cette légalisation du cannabis. Je vous remercie beaucoup, Ralid Mouna, d'avoir été avec nous. Bled du kiff, économie et pouvoir chez les Ketama du RIF. C'est le livre que vous avez fait paraître aux éditions Ibis. Merci beaucoup à nos deux invités, Mohamed Tozzi qui était en duplex depuis ICI Provence à Aix-en-Provence, que je remercie de vous avoir accueilli. Tisser le temps politique au Maroc, imaginaire de l'État à l'âge néolibéral. Votre livre a paru aux éditions Cartala. Et merci infiniment Kenza Afsaï, maîtresse de conférences en sociologie et chercheuse au centre Émile Durkheim en duplex depuis ICI Gironde à Bordeaux. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Et avant de reparler de la guerre entre Israël et l'Iran, vous nous parlez, Catherine, de la tension qui monte entre la Thaïlande et le Cambodge.
La crise frontalière qui remonte à l'indépendance se double aujourd'hui d'une crise politique. La première ministre thaïlandaise a présenté ses excuses ce matin car elle pourrait bien tomber, annonce le Bangkok Post, pour une conversation téléphonique jugée trop révérencieuse avec un dirigeant cambodgien. Les conservateurs du Bhumjaithai, leur ministre et leurs 69 députés qui soutenaient la coalition au pouvoir en Thaïlande ont claqué la porte hier soir à cause d'un coup de fil passé dimanche, donc, précise le journal thaïlandais The Nation, une conversation téléphonique entre la première ministre thaïlandaise, Petongtarn Shinawat, âgée de 38 ans, et l'ancien dirigeant cambodgien Hun Sen, 72 ans. Il préside le Sénat, indique le Cambodia Daily. Après avoir dirigé le Cambodge pendant 40 ans, il conserve une influence considérable sur le pays, dirigé d'ailleurs par l'un de ses fils. Dans cet enregistrement téléphonique relayé notamment par le journal thaïlandais Thairat et la chaîne télévisée CNA, on peut entendre la première ministre thaïlandaise, Petongtarn Shinawat, appeler l'ancien dirigeant cambodgien Hun Sen « oncle », une formule de politesse courante en Asie, mais considérée dans ce contexte comme trop familière, trop révérencieuse, souligne le quotidien thaïlandais The Nation. La première ministre thaïlandaise critiquait aussi pour ses mots « n'écoutez pas ceux qui sont dans l'opposition, comme le commandant de la deuxième zone de l'armée thaïlandaise. Si vous les écoutez, vous serez vexés et ce n'est pas ce que nous voulons », a-t-elle déclaré à l'ancien premier ministre Khmer. Atteinte à l'honneur de l'armée thaïlandaise, à la souveraineté, à l'intégrité de ses intérêts, dénoncent les conservateurs du Bhumjaithai, cités par le journal The Nation. Appel à la démission de la première ministre thaïlandaise, alors que la Thaïlande et le Cambodge sont gagnés par des sentiments nationalistes exacerbés, analyse la revue de diplomate, ravivé par la mort d'un soldat cambodgien fin mai. Il a été tué lors d'un échange de tirs dont les deux pays se rejettent la faute dans le triangle d'Émeraude où se rencontrent les frontières du Cambodge, de la Thaïlande et du Laos. Un tracé contesté autour de temples notamment, et ce depuis la fin de la colonisation française, rappelle The Diplomate.
Et depuis la mort de ce soldat fin mai, escalade des tensions entre le Cambodge et la Thaïlande.
Une marée humaine rouge et bleue aux couleurs du drapeau cambodgien a investi hier le cœur de Phnom Penh dans une manifestation patriotique. 150 000 Cambodgiens ont défilé dans la capitale. Comme le montre le Phnom Penh Post, signe que le conflit ne se cantonne plus à des zones frontalières reculées. Tandis que la Thaïlande a imposé des restrictions à sa frontière avec le Cambodge ces derniers jours, indiquent le Bangkok Post et le Khmer Times, le Cambodge, lui, a interdit les importations de fruits et légumes en provenance de Thaïlande, ainsi que les films et feuilletons télévisés thaïlandais. Ce nouvel épisode d'instabilité politique qui touche aujourd'hui la Thaïlande, habituée aux coups d'État, fait vaciller un peu plus l'économie du royaume, souligne le Bangkok Post, une économie déjà ébranlée par le protectionnisme de Donald Trump.
Après une septième nuit de frappe entre Israël et l'Iran, Catherine, Donald Trump n'exclut pas une entrée en guerre des États-Unis.
Pour briser le programme nucléaire de Téhéran, littéralement, avec des bombes anti-bunkers américaines, les seules capables de détruire les sites nucléaires iraniens, rappelle The Economist, des sites enfouis dans la montagne, à commencer par celui de Fordo, dont je vous parlais lundi et mardi. Mais cette attitude, possiblement va-t-en-guerre, pourrait bien fracturer, voire faire imploser le camp trumpiste au Congrès comme dans les médias, analysent les magazines Newsweek et The Atlantic, ainsi que USA Today et la revue française Le Grand Continent. Car Donald Trump n'a cessé pendant la campagne présidentielle de prôner un désengagement militaire des États-Unis. Si certains conservateurs exhortent Donald Trump à soutenir Israël avec plus de force et à utiliser l'armée américaine pour détruire les installations nucléaires iraniennes, des personnalités MAGA de premier plan, note le New York Times et USA Today, s'y opposent farouchement, comme l'élu de Géorgie Marjorie Taylor Greene, l'ancien stratège en chef de la Maison Blanche, Steve Bannon, ou encore Tucker Carlson, l'ex-présentateur vedette de Fox News, a piégé dans son podcast le sénateur républicain Ted Cruz, allié de Donald Trump.
How many people live in Iran, by the way?
I don't know the population.
You don't know the population of the country you seek to topple?
Au fait, combien de personnes vivent en Iran, demande Tucker Carlson. Je ne sais pas, admet Ted Cruz, visiblement gêné, alors qu'il siège à la commission des affaires étrangères du Sénat dans le groupe sur le Moyen-Orient. Vous ne connaissez pas la population du pays dont vous cherchez à renverser le régime, insiste Tucker Carlson. Il y a environ 92 millions d'habitants. Mais je ne m'assois pas pour mémoriser des tableaux de population, réplique Ted Cruz. Vous êtes un sénateur qui appelle à renverser un gouvernement, s'indigne Tucker Carlson, qui prend un malin plaisir à coincer un sénateur républicain, le camp qu'il soutient en permanence, ce qui amuse le Daily Show, mais le côté isolationniste du présentateur conservateur prend le dessus. Ces tensions expliquent aussi pourquoi Donald Trump prend autant de temps pour annoncer sa décision face à l'Iran à un an et demi des élections de mi-mandat. Des fractures économiques, diplomatiques sont de plus en plus visibles au sein du camp MAGA, souligne The Atlantic, un camp trumpiste d'habitude uni derrière son chef absolu.
Merci beaucoup Catherine Dutu, et ce sera justement un des sujets abordés demain dans Culture Monde, présenté comme tous les vendredis par Mélanie Chalandon, la table ronde d'actualité consacrée à l'élite politique et militaire iranienne face à la guerre avec Israël, avec le journaliste au point Armin Arefi et la chercheuse Sophia Marroug. Table ronde précédée d'un retour de terrain, retour des États-Unis auprès de la communauté transgenre entre peur et résistance, avec la journaliste Julie Jameau pour Arte. Dans un instant, les midis de culture.